OK, on va commencer notre 68e leçon dans notre série sur la théologie systématique. Nous allons étudier ce matin l'abrogation de la première administration de l'Alliance de grâce et l'introduction de la seconde administration qui est la Nouvelle Alliance. Alors, lorsqu'on parle d'abrogation et d'introduction de l'Alliance de grâce, nous devons nous souvenir qu'il s'agit de deux administrations de la même alliance et que cette alliance-là demeure invariable sous toutes les époques, qu'elle est éternelle, qu'elle est bien ordonnée et sûre en toutes choses, qu'elle ne peut être brisée ou annulée et que toutes ses promesses sont inaltérables, que toutes ses bénédictions sont irréversibles et qu'elle est immuable. Dans le fond, l'idée, c'est de se souvenir que l'Alliance de grâce, il y a eu deux administrations, l'Ancien et le Nouveau Testament, et que le Nouveau venait quelque part abroger l'Ancien. On va voir tantôt de quelle façon ça s'est fait. On va regarder la première administration, quelle forme elle avait. Alors, la première administration, l'Ancien Testament, a été conçue pour un temps défini. Donc, la première administration, Hébreux 9, versets 9 et 10, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et vous, les versets nous disent que la question des, du tabernacle, c'était des choses charnelles, mais qui pointaient vers Christ. C'est ça que ça nous dit, étaient des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation. Galates chapitre 3, versets 1 à 4. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Alors, dans Galates, on se souvient qu'il y avait un certain groupe de Juifs qui cherchaient à ramener les chrétiens sous l'Ancienne Alliance, autrement dit, leur imposer de continuer à faire des sacrifices, comme dans l'Ancien Testament. Et c'est ça que ça dit, si vous avez commencé par l'Esprit, pourquoi voulez-vous retourner vers la chair? Et tu as aussi Galates, chapitre 3, versets 24 et 25. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Donc, l'Ancienne Alliance a été conçue pour un temps défini. Elle a été limitée à un certain peuple. Psaume 147, versets 19 et 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Romains 3, versets 1 et 2. Quel est l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc la manière d'adorer est spécifique quant au lieu d'adoration et quant à l'autel. Alors, dans l'Ancien Testament, on adorait un endroit particulier et dans le Nouveau Testament, on peut adorer partout. Alors, les différences, c'est ça. Deutéronome 12, versets 11 à 14. « Alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. C'est là que vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, vous, vos fils, vos filles, vos serviteurs et vos servantes, et le Lévite qui sera dans vos portes, car il n'a part ni héritage avec vous. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes au lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, c'est là que tu feras tout ce que je t'ordonne. » Alors, dans l'Ancien Testament, les gens, fallait qu'ils allaient adorer à des endroits précis, contrairement au Nouveau Testament. On va voir les différences entre les deux alliances. Pas entre les deux alliances, mais entre les deux administrations de la même alliance. Et cette administration-là, la première administration de l'Alliance de grâce, elle avait été expressément prophétisée comme devant cesser, à un moment donné. Jérémie 31, versets 31 à 33. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Voyez-vous, dans Jérémie, déjà on prophétisait la nouvelle alliance où on disait que la loi serait écrite dans le cœur des élus. Hébreux 8, versets 8 et verset 13. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Voyez-vous? En disant « une alliance nouvelle », verset 13, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 et 23. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Hébreux 10, versets 5 à 7. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. » Alors ici, dans Hébreux 10, c'est Christ qui parle, qui dit que le Seigneur, dans l'Ancien Testament, la question des offrandes, des animaux et toutes ces choses-là, c'était temporaire. C'était pas quelque chose qui enlevait vraiment le péché. Et Jésus dit au Père, dans le contexte, « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est écrit pour faire ta volonté. » Alors, c'était la question des offrandes, c'était uniquement symbolique, représentait, ça n'enlevait pas comme tel le péché. Le deuxième point qu'on va regarder, c'est que la première alliance, on va regarder les raisons pour lesquelles la première administration de l'Alliance de grâce devait de cesser. Elle était typique. Le peuple était typique, l'obéissance était typique et les bénédictions étaient typiques. Qu'est-ce qu'on entend par un type dans l'Ancien Testament? C'est soit un personnage, soit une institution, il y a d'autres formes aussi, qui sont des choses qui pointent vers le Seigneur Jésus-Christ, comme justement ce matin, en haut, on va continuer notre étude sur le tabernacle. Le tabernacle comme tel, c'était quelque chose de physique, une bâtisse avec des différentes choses qu'il y avait à l'intérieur de ça, mais tout ça, ça pointait vers le Seigneur Jésus-Christ, c'était des symboles. Alors, un type, c'est un symbole qui pointait vers la venue future du Christ. Hébreux 10, verset 1. « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » Voyez-vous, dans Hébreux, ce qu'il est en train de dire, c'est que c'était une ombre des biens à venir et que ce n'était pas l'exacte représentation des choses et que ces mêmes sacrifices-là qu'on offrait perpétuellement dans l'Ancien Testament, chaque année, ça ne pouvait amener les assistants à la perfection. Donc, les gens de l'Ancien Testament qui faisaient ces choses-là, ça pointait vers la venue future de Christ, mais ça ne rendait pas les assistants à la perfection. Ça n'enlevait pas leur péché, ça couvrait leur péché. Hébreux 9, versets 9 à 11. Voyez-vous, dans Hébreux 10, ça dit que c'est une ombre des biens à venir. Dans Hébreux 9, ça dit que c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alors, après qu'on va avoir fini notre série sur le tabernacle, on va commencer une étude sur le livre d'Hébreux. Et les deux vont définitivement ensemble. Si tu essaies d'étudier Hébreux puis tu n'as jamais étudié la partie du tabernacle dans Exode, chapitre 25 à 40, tu vas avoir beaucoup de difficultés à comprendre qu'est-ce que l'auteur cherche à véhiculer auprès des personnes qui lisent. Alors, c'est ça qu'on va faire. On va faire les deux. Et on a lu qu'on achève notre étude sur le tabernacle. Vous allez voir que quand on va faire Hébreux, qu'on va arriver à certains passages, on va faire les liens entre les deux, ça va être très clair. Mais si on n'a pas fait l'exercice, ça peut être assez difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a pas fait cet exercice-là. Alors, les sacrifices, c'était aussi typique. Par exemple, si on tuait un agneau, Jésus-Christ représente l'agneau. Alors, le fait de tuer un agneau, et après que tu avais mis tes mains sur sa tête, c'était une expression que tu mettais ta culpabilité sur la tête de l'animal et que l'animal était sacrifié à ta place. Et si on prenait un agneau, dans le Nouveau Testament, on appelle Jésus l'agneau de Dieu, mais c'est justement, il est sacrifié à notre place, il prend notre place. Alors, c'est toutes des choses qui pointaient vers la venue future de Christ. Hébreux 8, versets 4 et 5. S'il était sur la terre, il ne sera pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, voyez-vous, important, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Ait soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Quand Moïse est allé sur la montagne et que Dieu lui a donné un modèle, comment construire le tabernacle, on est en train de voir ça en haut, on a 22 leçons de fait. Ce qu'on voit à l'intérieur de ça, c'est que Dieu avait donné des dimensions précises, des objets précises à être placés dans des endroits précis. Et toutes ces choses-là étaient des symboles qui pointaient vers Jésus-Christ. C'est très important de saisir ça quand on lit l'Ancien Testament, sinon on lit ça et on trouve ça un peu ardu à lire. Hébreux 9, versets 23 et 24, « Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Quand on va faire l'exercice d'étudier le livre d'Hébreux au complet et qu'on va se rappeler ce qu'on a vu dans Exode, ça va vraiment éliminer notre compréhension, ça c'est certain. Alors le médiateur était typique. Moïse représentait le médiateur entre Dieu et les hommes. Il était le représentant entre le peuple d'Israël et Dieu. Il était le médiateur. Et l'image, le type de Moïse, c'est un peu le symbole de Christ qui est lui aussi le médiateur entre ses élus et Dieu lui-même. Hébreux 9, versets 18 à 22. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Quand on parle de la première alliance, c'était donner la loi. Et si vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, ça avait été inauguré avec du sang qui avait été aspergé sur le livre. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. La première alliance avait été inaugurée avec du sang, que ça dit. Verset 19, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes contestent théologiquement la nécessité du sang de Jésus-Christ pour le salut. Pourtant, il y a une multitude de versets dans le Nouveau Testament qui en parlent. Donc, les sacrifices étaient typiques, le médiateur était typique, et aussi le tabernacle lui-même était typique. Colossiens 2, verset 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du boire ou du manger, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Alors, ce qui est important de se souvenir, c'est que la première administration de l'Alliance de grâce, c'est quelque chose qui était typique, qui était une ombre des choses à venir, et non pas l'accomplissement comme tel. On va voir la différence entre les deux. Donc, la première raison pourquoi elle se devait de cesser, c'est qu'elle était typique. Si on se souvient un peu ce que ça veut dire, typique. Deuxième chose, les Écritures disent que la première administration de l'Alliance de grâce avait des défauts. Alors, si on lit, par exemple, dans Hébreux 8, versets 7 et 8, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » Pourquoi elle avait des défauts? Parce qu'elle exhibait Christ figurativement versus réellement dans le Nouveau Testament. Elle exhibait aussi un Christ à venir comparativement à un Christ venu. Nous, dans notre époque, on voit Christ comme étant venu. Eux, dans l'Ancien Testament, ils voyaient Christ comme à venir. Donc, eux aussi, l'alliance, à ce moment-là, l'alliance, l'administration de l'Ancienne Alliance, exhibait Christ comme une œuvre à accomplir. Ça pointait tout vers des choses que Christ devait accomplir lorsqu'il viendrait, tandis que nous, on voit l'œuvre de Christ comme étant accomplie. Alors, voyez-vous, figurativement versus réellement, avenir versus venu, œuvre à accomplir versus œuvre déjà accomplie. Les sacrifices eux-mêmes aussi étaient imparfaits. Certains péchés n'étaient pas couverts par les sacrifices, comme les péchés qui concernaient le sabbat, le meurtre et l'adultère. Et ceux qui existaient, les sacrifices qui existaient, n'ôtaient pas le péché dans l'Ancien Testament. Hébreux 9, versets 13 et 14, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous servez le Dieu vivant? » Donc, c'est vraiment une question de toutes les choses de l'Ancien Testament qui concernaient Christ, c'était à venir et c'était des symboles. Aussi, à l'époque de la première administration de l'Alliance de grâce, donc dans l'Ancien Testament, les dons et les grâces du Saint-Esprit n'étaient pas sans mesure. Alors que le Nouveau Testament annonce pour Christ que le Saint-Esprit avait été donné au Seigneur sans mesure. Et aussi, la lumière de la première administration de l'Alliance de grâce n'était pas aussi abondante que dans la Nouvelle. C'était en quelque sorte voilé. Nous lisons ça, par exemple, dans 2 Corinthiens, versets 3, versets 7 et 13. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Voyez-vous ce qu'il fait ici? Il est en train de comparer le ministère de l'Ancienne Alliance avec le ministère de la Nouvelle. Il dit que le ministère de l'Esprit va être de beaucoup supérieur à l'Ancien. C'est 2 Corinthiens 3, verset 7, et aller jusqu'au verset 13. Verset 9, « Si le ministère de la condamnation, qui était celui de la loi, là, a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager, voyez-vous, on parle de l'ancienne alliance, qui était passager, a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. » Oui, dans l'Ancien Testament, les choses étaient passagers, ça avait des défauts, c'était pour être remplacé par la Nouvelle Alliance. Aussi, ce que les Écritures nous enseignent, pourquoi ça se devait d'être abrogé, d'être remplacé, c'est que c'était un état de servitude. Galates 4, verset 3 et versets 24 et 25. « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Et versets 24 et 25, « Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux alliances, l'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. » Alors, on compare ici, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, on compare Agar, qui était le fait que le peuple d'Israël était sous la servitude, c'est qu'il était sous la loi, et maintenant, on parle de la Jérusalem actuelle, alors un était symbolique et l'autre était spirituel. Romains 8, verset 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Hébreux 2, versets 14 et 15, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Autre chose, elle était impuissante et inutile. La première administration de l'Alliance de grâce. Galates 4, verset 9. « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? » Voyez-vous, il voulait retourner... Il y avait certains nouveaux chrétiens à l'époque des Hébreux, à l'époque de Galates, qui voulaient, cherchaient à ramener les chrétiens sous l'ancienne alliance en leur disant « Vous devez d'être circoncis, vous devez de faire les sacrifices et de conserver le temple et toutes ces choses-là. » Alors, ils cherchaient à les ramener dans la servitude. Voyez-vous, ils parlent de ces choses-là comme étant des choses faibles et des pauvres rudiments. Hébreux 7, versets 18 et 19. Voyez-vous, ici, c'est un des versets les plus clairs quant à l'abolition de la première administration de l'Alliance de grâce. « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son utilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Voyez-vous, quand Jésus est venu, les pharisiens croyaient qu'ils étaient capables d'accomplir la loi, le décalogue, le 10 commandements, la perfection, et ils avaient un genre d'orgueil spirituel. Quand on regarde le sermon sur la montagne de Matthieu, entre Matthieu 5 et Matthieu 7, le Seigneur vient leur rappeler que leur compréhension des exigences de la loi était loin d'être complète. Par exemple, juste l'idée l'adultère, ils croyaient que si un homme n'avait ou une femme n'avait jamais couché avec quelqu'un d'autre, c'est qu'il avait accompli la loi. Le Seigneur leur dit que même avoir pensé de le faire, c'était comme s'il l'avait fait dans la réalité. Alors, il est venu leur montrer que la loi était beaucoup plus exigeante qu'il n'y avait aucun homme qui était capable de l'accomplir à la perfection. Alors, il est venu comme leur enlever leurs illusions. Elle était impuissante et inutile aussi pour apaiser la conscience. Hébreux 9, verset 9. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices. Voyez-vous, si c'est très clair, qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Alors, dans l'ancien, ça ne pouvait pas rendre parfait ta conscience en faisant des sacrifices d'animaux. C'est Christ qui accomplit les choses à notre place. Elle était aussi, et je dirais ici, c'est peut-être la raison la plus importante pour laquelle elle a été abrogée et remplacée, c'est qu'elle était impuissante et inutile pour ôter les péchés. Hébreux 10, versets 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Verset 4, une importance extrême, « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » C'était Christ qui permettait que le péché soit ôté, le péché soit effacé. L'Ancien Testament, c'était des choses qui symbolisaient l'œuvre future de Christ, ce n'est pas des choses qui enlevaient le péché par lui-même. Le troisième point qu'on va regarder, c'est que la première administration, son abrogation. La première manifestation de l'abrogation de la première administration de l'Alliance de grâce, c'est le déchirement du voile. Or, si le ministère de la mort... déchirement du voile 8. Matthieu 27, verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Voyez-vous, dans l'Ancien Testament, quand on étudie le tabernacle, on se rend compte qu'il y avait un voile entre le lieu saint et le lieu très saint. Le voile voulait dire que le lieu vers le lieu très saint n'était pas ouvert encore. Et quand le Christ est mort, c'était le temple. Dans le temple, il y avait encore ce rideau-là qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et le symbolisme de la mort de Christ, c'était pour démontrer qu'à la mort de Christ, le voile du temple s'est déchiré du haut en bas, qui venait démontrer que Dieu le Père, à cause du sacrifice de Christ, rendait possible d'entrer dans le lieu très saint. Très symbolique, c'est très, très fort comme symbole quand on comprend les choses comme ça. Ça dit, alors la première manifestation de l'abrogation, c'est vraiment lorsque Christ est venu, le voile du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré de haut en bas et c'était hautement symbolique. Deuxième point, que les Écritures nous parlent du renversement du mur de séparation. Dans l'Ancien Testament, les païens ou les gentils n'avaient pas accès beaucoup aux choses qui concernaient les bénédictions d'Israël. C'était comme qu'il y avait un mur de séparation entre les Juifs et les gentils ou les païens. Et avec la venue de Christ et son œuvre, le mur de séparation a été brisé. Éphésiens, on lit ça par exemple dans Éphésiens 2, versets 14 à 16. En parlant de Christ, ça dit « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. » Ce qui existait, ce qui séparait les Juifs des païens a été brisé à cause de l'œuvre de Christ. Verset 15 « L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié. » Et où c'est à cause de Christ que le mur qui séparait les Juifs des païens, des gentils, nous, a été abolie et maintenant il n'y a plus de les choses qui nous étaient refusées, qui ne faisaient pas partie de nos bénédictions, sont maintenant accessibles. Alors la loi, ce qu'on appelle dans les Écritures, il y a la loi morale, il y a les lois civiles, il y a les lois cérémonielles. Dans l'Ancien Testament, les lois cérémonielles, c'est tout ce qui les lois, par exemple, du tabernacle, qu'on se devait de prendre un animal et de l'égorger et de le faire brûler, et toutes ces choses-là, qui représentaient le jugement de nos péchés par Christ. La loi cérémonielle, si on lit l'Ancien Testament, on peut toujours se demander des fois, est-ce que nous, on se doit de continuer encore à obéir à ça? Vu que la loi est divisée en trois parties, la loi morale, c'est les 10 commandements, c'est le décalogue. Ça ne changera jamais. Les deux autres lois, les lois civiles et les lois cérémonielles, eux ont été abolis lorsque Christ est venu sur la terre. Donc, l'abolition d'une ordonnance ou de la loi cérémonielle, Hébreux 7, verset 19, « Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Colossiens 2, verset 16 et 17, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Donc, toute la question des lois cérémonielles, il y a d'autres versets qui nous disent que maintenant, comme chrétiens, nous n'avons plus à faire les choses que les Juifs faisaient dans l'Ancien Testament. Colossiens 2, 14, en parlant de Christ, ça dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Alors, la disparition des âmes, c'est Christ est maintenant la réalité et remplace les âmes. Si on dit que toutes les choses dans l'ancienne, la première administration de l'Alliance de grâce, c'était une ombre, un symbole, c'est sûr que quand Christ est venu, c'était comme la réalité semblable à une ombre. Si vous mettez debout, vous voyez l'ombrage de quelqu'un à terre, bien l'ombrage, c'est pas la réalité. La réalité, c'est la personne. Mais ça que ça dit, dans l'Ancien Testament, c'était comme l'ombre, et maintenant, Christ, c'est la réalité. Cette abrogation-là ne s'est pas faite instantanément. Elle a été graduelle. Hébreux 8, verset 13, « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance ancienne. » Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Voyez-vous, ça se faisait graduellement. En anglais, quand ça parle de la première alliance, ça disait « decayed ». Decayed, quelque chose qui se décompose, quelque chose « ready to vanish away », ça veut dire qu'il était prêt de disparaître. Ça ne s'est pas fait instantanément, ça s'est fait graduellement. Par exemple, pour démontrer que ça s'est fait graduellement, déjà, quand le peuple d'Israël a été amené à Babylone, tout ce que l'Ancien Testament leur demandait de faire, quand ils ont été à Babylone, ils n'ont pas pu continuer à le faire. Il n'y avait pas le temple, il n'y avait pas le tabernacle, ils n'ont pas pu parce que les Babyloniens ne leur permettaient pas d'exercer leur religion comme ils l'entendaient. Alors, déjà, il y avait comme une décadence, une décomposition, si tu veux, de la première alliance. Le deuxième temple aussi, et aussi la sacrificature obtenue par corruption et tromperie. À l'époque de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur se devait d'être nommé, se devait d'être d'une certaine tribu, il se devait de respecter certaines choses, et on sait par l'histoire que déjà certains Juifs essayaient de s'approprier du titre de souverain sacrificateur avec de l'argent, avec des tromperies. Alors déjà, l'ancienne alliance commençait à se corrompre parce que les choses n'étaient plus respectées selon ce que les Écritures enseignaient. Concernant l'ancienne alliance, une chose à se souvenir, c'est que Christ étant né sous la loi, quand Christ est venu, toutes les choses qui concernaient les lois civiles, les lois cérémonielles n'étaient pas complètement abolies. C'était en processus de s'abolir. Alors, Christ, lui, a respecté l'ensemble des lois à la fois moral, cérémoniel et civil, parce qu'il était un juif qui était né sous la loi. Alors, il a respecté en accomplissant, durant toute sa vie terrestre, par exemple, la circoncision le huitième jour. C'était quelque chose qui se devait d'être accompli par les juifs. Nous, on n'a plus besoin de se faire circoncire le huitième jour. Lui a accepté de le faire, ses parents l'ont fait, et dans l'histoire, c'est pour démontrer que à sa venue, vu qu'il était sous la loi encore, il continuait de respecter les règles de l'Ancien Testament. Aussi, le fait que sa mère soit purifiée selon les rites juifs. On lit dans le Nouveau Testament que sa mère a respecté les rites de purification qui étaient encore en vigueur à cette époque-là, parce qu'il était encore sous la loi. À la venue de Christ, on était encore sous la loi. C'est à sa mort que l'inauguration de la Nouvelle Alliance s'est faite. Le fait, par exemple, qu'il respectait la Pâque juive. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de respecter la Pâque juive, mais à l'époque, quand Jésus a fait l'inauguration du repas du Seigneur, c'était pour respecter la Pâque juive qui leur avait été ordonnée dans Exode chapitre 12. Il se devait de tuer un agneau, de le manger avec des herbes amères, et il y avait toute une série de règlements. Il a tout suivi ces choses-là. Aussi le fait que le Seigneur lui-même assistait aux réunions de la synagogue le samedi, le sabbat, le respect du sabbat par le Seigneur. Et tout ça, ça s'est aussi continué à se détruire jusqu'à la destruction complète. Ça a été la destruction du temple en l'an 70 à Jérusalem. Jésus est probablement parti vers l'an 30, 33, 34. C'est un peu contesté. Mais en tout cas, disons 33, 34. Et le Seigneur a permis que Jérusalem, qui représentait l'ancienne alliance, en 70, a été envahi par les Romains et l'ensemble de la vieille Jérusalem a été détruit. Et en la détruisant, on détruisait le temple, on détruisait tout ce qui concernait la première administration de l'Alliance de grâce. Voyez-vous, ça s'est fait graduellement jusqu'à la mort de Christ et là, ça a été la nouvelle Alliance. Osée, chapitre 3, versets 4 et 5, « Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Alors, ce qui est important de se souvenir, c'est que la première administration, c'était... Elle avait des défauts, elle avait été prophétisée qu'éventuellement elle serait changée. Et avec la venue de Christ, elle a été effectivement inaugurée par Christ lui-même. Là, ce qu'on va regarder, c'est la seconde administration, son introduction. Alors, l'introduction de la nouvelle a aussi été graduelle. Si vous lisez des livres sur la théologie, par les théologiens, je dirais conservateurs, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas tous d'accord quant à au moment précis où ça a été inauguré. Certains vont dire que la Nouvelle Alliance a été inaugurée à la naissance de Christ. D'autres vont dire qu'elle a été inaugurée à partir du moment où Jean-Baptiste était comme précurseur et il annonçait l'arrivée du Christ. D'autres vont dire que ça s'est fait à la mort et à la résurrection de Christ. D'autres vont dire que ça s'est fait à l'ascension de Christ, parce qu'il a monté au ciel. Et d'autres vont dire que ça s'est fait à la Pentecôte, lorsque l'Esprit-Saint est descendu. Moi, je suis porté à penser que c'est la mort qui a fait la mort de Christ et la résurrection, parce que le fait, pourquoi je dis ça, c'est parce qu'au moment où Christ est mort, Matthieu 27, 51, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Que dans l'Ancien Testament, l'accès au lieu très saint, c'était uniquement le souverain sacrificateur qui pouvait rentrer là une fois par année. Et il y avait toute une série de choses à respecter. Et à partir du moment où le Christ a été mort, le voile du temple est déchiré. Donc, ça démontrait que maintenant, l'accès au lieu très saint était maintenant ouvert. En tout cas, c'est ma façon de le comprendre. Quoique je ne m'obstinerai pas avec les théologiens là-dessus. Mais à quelque part, c'est... Ça joue toujours autour de l'arrivée de Christ, Là, les gens s'entendent pas tous sur au moment précis, mais à quelque part, c'est l'arrivée de Christ qui a fait que la première administration de l'Alliance de grâce a été abrogée pour être remplacée par la Nouvelle Alliance. Alors, ce sont toutes ces choses-là, la naissance de Christ, le ministère de Jean-Baptiste, la mort, la résurrection de Christ, ce sont de multiples facettes d'une manifestation graduelle et progressive. Donc, son introduction fut graduelle, de nouveau. L'ancien a été graduel avant d'être abrogé. L'introduction de la nouvelle a été graduelle afin d'être inaugurée. Donc, l'introduction de la seconde administration de l'Alliance de grâce a été exprimée par les choses suivantes. Premièrement, l'exhibition complète de la personne de Christ, comme étant l'auteur du salut, comme ayant accompli le salut, son incarnation, son obéissance active et passive. On ne rentrera pas là-dedans dans les détails. Ce matin, on a déjà parlé à de multiples reprises. Qu'est-ce qu'on voulait dire par ça? Sa résurrection, son ascension, le don du Saint-Esprit aux élus, etc. Donc, l'exhibition complète du salut a été vraiment commencé à être expliqué par les quatre évangiles et ensuite par les épîtres et finir par l'Apocalypse. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16, « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Voyez-vous, ça nous dit que, dans le fond, le mystère de la piété, c'est Jésus-Christ. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Alors, c'est clair que quand Christ est venu, les apôtres n'ont pas nécessairement tout de suite compris l'identité de Christ. Ils n'ont pas nécessairement compris tout de suite aussi la portée de l'œuvre de Christ et sa nature. Mais avec le temps, Paul a commencé à expliquer. Alors, les évangiles racontent la venue de Jésus. Les épîtres, elles, viennent expliquer les évangiles. Alors, c'est par les évangiles qu'on comprend la nature de Christ, qu'il était Dieu, plus que les apôtres. Parce qu'à l'époque des apôtres, il y a eu Pierre qui a eu un éclair de génie quand le Seigneur a demandé « Qui dis-tu que je suis? » Il lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Puis là, il a dit « C'est pas toi, ça vient pas de toi, ça vient du Père, ce qui t'a fait cette révélation-là. » Alors, ça lui a pris du temps avant de saisir qui Christ était, combien de temps qu'il comprenne vraiment ce qui s'était passé. Autre chose qui fut exprimée, l'introduction de la Nouvelle Alliance est exprimée aussi par une exposition plus claire et plus complète de l'Évangile. Romains 16, versets 25 et 26. « À celui qui peut vous affermir, selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. » Oui, ce qu'il est en train de dire dans Romains 16, c'est qu'il est en train de dire que toutes les choses concernaient Christ, c'était jusqu'à un certain... Oui, tu lui dis, révélation du mystère caché pendant des siècles. Pendant des siècles, c'était plus ou moins caché. Et à la venue de Christ, toutes les choses concernant le salut, c'est devenu plus clair. Donc, l'Évangile a été annoncé plus clairement et plus complètement à la venue de Christ, et surtout aussi par les écrits de Paul qui a beaucoup contribué à expliquer toutes ces choses-là. La libération de la servitude, c'est sûr que si tu n'étais plus sous l'ancienne alliance, sous la première administration de l'Alliance de grâce, les choses que ça te demandait ne t'étaient plus exigées. Alors c'était la libération de la loi cérémonielle, la libération de la loi judiciaire et la libération de la loi morale, mais dans le fait que vous deviez de l'accomplir rigoureusement. Ça ne veut pas dire que la loi morale, le décalogue, les 10 commandements, n'a plus aucune ne vous lie plus comme croyant du Nouveau Testament. Ça veut tout simplement dire que ça te libère de la loi dans le sens que on sait aujourd'hui qu'il n'y a aucun homme qui est capable d'accomplir à la perfection les 10 commandements de Dieu. Et ce sont les exigences du Père pour vivre en sa présence. Alors, si ce n'est pas nous qui l'accomplit, qui peut l'accomplir? Christ est venu et il l'a accompli à la place de ses élus. Et c'est dans ce sens-là que ça nous libère de la loi morale et de son rigoureux accomplissement. Autrement dit, aujourd'hui, on comprend très bien que le décalogue, on n'est pas capable de l'accomplir à la perfection. Autre chose qui nous exprime l'introduction de la Nouvelle Alliance, c'est le fait que la communication des dons et des grâces du Saint-Esprit est beaucoup plus généreuse. Joël 2, versets 28 et 29. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Voyez-vous, ici, il est en train de faire comprendre qu'un jour, l'Esprit de Dieu va être répandu sur les croyants. Et la preuve que, ici, on parle de l'Ancien Testament, là. On parle de Joël, donc dans Joël, ça donne l'Ancien Testament. Mais Joël prophétiserait que ces choses-là arriveraient un jour. Et quand on lit dans le livre des Actes, la preuve que l'arrivée, la descente du Saint-Esprit, c'était véritablement l'accomplissement partiel de cette prophétie-là, c'est qu'il la cite lui-même. Dans le livre des Actes, vous allez lire ça, que là, l'Esprit est descendu sur eux. Alors, le don du Saint-Esprit et toutes les grâces qui étaient reliées au Saint-Esprit étaient beaucoup plus généreuses dans le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien. Matthieu 11, verset 11, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Et où il parle de l'Ancien Testament, il dit « Dans l'Ancien Testament, le plus grand qui est paru de tous les temps, c'est Jean-Baptiste. » Mais il dit « Dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. » Donc, le don aussi d'ordonnance plus spirituelle. Dans l'Ancien Testament, il y avait la circoncision qui était imposée au peuple juif comme étant un signe de leur appartenance à Dieu. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous a donné aussi des ordonnances, mais qui ne sont pas de la même nature. Quelles sont les ordonnances que le Seigneur nous a données? Il y en a deux, le baptême et le repas du Seigneur. Dans Matthieu 28, verset 19, il nous dit, le Seigneur nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et donc, l'institution de l'ordonnance du baptême, ça a été institué par le Seigneur lui-même. Et aussi, dans 1 Corinthiens 11, versets 25 et 26, on le sait quand on fait le repas du Seigneur, « De même, après avoir soupé, » là, c'est le Seigneur lui-même qui parle, « il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et vous, il a institué deux ordonnances. Ce n'est pas les ordonnances de la Nouvelle Alliance ne sont pas les mêmes que celles de l'Ancienne Alliance. Quelles sont les applications qu'on peut faire du texte d'aujourd'hui? Je dirais la première, après avoir été sauvé sous la deuxième administration, c'est un grand privilège et une grande bénédiction. Tout ce qui concerne Christ est plus clair, plus parfait, il y a plus de lumière, plus de liberté. Ça nous libère de certaines choses que l'Ancien Testament imposait au peuple d'Israël. Donc après, c'est vraiment un privilège et une grande bénédiction que d'avoir été sauvé sous la deuxième administration de l'Alliance de grâce. Deuxième application, prions le Seigneur d'en comprendre et d'en apprécier toute la profondeur et aussi la grâce de répondre adéquatement à son inestimable cadeau. Gloire à Dieu. Amen.
Amen.